Israël. Il y a quelque chose de hautement critique dans l'attitude des chrétiens aujourd'hui. Beaucoup se précipitent en Israël, on organise des voyages tous les ans, on veut aller là-bas voir quoi. La Terre Sainte, certes, tout ce que les guides peuvent vous montrer, ce lieu est supposé être celui d'eux ou prétendu être celui d'eux. C'est intéressant, on peut y recueillir certaines émotions quand on connaît la Bible, quand on est un enfant du Seigneur, certes. Personnellement, je n'y suis jamais allé et je n'ai pas l'intention d'y aller. Ce n'est pas que je méprise du tout la Terre Sainte, au contraire, le Seigneur Jésus en a parlé dans son discours eschatologique, et j'aime particulièrement le peuple d'Israël. Il y a des années et des années que je l'aime, avant que les événements aient donné à la nation d'Israël cette actualité que nous lui connaissons de nos jours. Je me suis intéressé aux Juifs, les voyant à travers l'Écriture, les voyant dans leur malheur, car même s'ils ont connu la prospérité, même s'ils ont eu des commerces florissants, ils ont quand même toujours goûté à l'amertume, cette amertume que l'on sent dans la parole de Dieu qui les avertissait déjà avant même l'entrée dans le pays de la promesse, qui les avertissait de leur dispersion à travers les nations s'ils n'écoutaient pas la voix de Dieu, s'ils n'accomplissaient pas les commandements de Dieu, s'ils s'en détournaient, la dispersion et cette amertume dont parlait déjà le Deutéronome, les Juifs l'ont goûté pendant des siècles. Je ne suis pas juif d'origine, mais à travers la foi, et parce que Dieu aussi m'a orienté de ce côté, et m'a donné cette sensibilité, si vous voulez, spirituelle, ce n'est pas une sensibilité affective. Eh bien, je me suis toujours beaucoup intéressé aux Juifs, j'ai passé de longs moments avec eux, je suis entré dans la synagogue, j'ai assisté à des fêtes juives, à côté du patriarche, avec le chandelier à sept branches, pendant des heures, j'ai connu ce peuple, j'ai pénétré dans son intimité, et ce qui m'a fait pénétrer, car c'est très difficile de pénétrer dans l'intimité des Juifs, ce qui m'a fait pénétrer, c'est la volonté de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, parce que Dieu m'avait donné de les côtoyer. Je connais encore maintenant plusieurs Juifs, notamment un docteur qui est à Nice, et qui, depuis que nous lui parlons, a repris la pratique du sabbat, fermé son cabinet, et c'est un cabinet qui rapporte fort, un spécialiste. Il a fermé son cabinet le samedi, il est dans son appartement sur la promenade des Anglais le samedi, et pendant des heures, il m'est arrivé de l'entretenir de la Bible, sa femme et lui. Nous avons eu le bonheur de voir des femmes juives passer par les eaux du baptême. Mais ce n'est pas toujours la mission que Dieu nous a donnée auprès d'eux. Le prophète a dit, j'enverrai des pécheurs qui les pêcheront parmi les nations. J'enverrai des chasseurs qui les chasseront pour qu'ils retournent dans le pays de leur père. L'on oublie que c'est un peuple qui a énormément souffert. Il n'y a pas de peuple qui a souffert autant que lui, et loin de là, sur la terre. Et maintenant, ce peuple est retourné dans son pays. Je voudrais vous lire dans l'évangile de Jean ce que le Seigneur Jésus disait à la Samaritaine au chapitre 4 de Jean, verset 20, chapitre 4 de Jean, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Dieu s'est servi de ce peuple que le prophète Ésaïe appelle le serviteur de l'Éternel. Je sais bien que la même expression est employée pour désigner le Messie, mais il y a deux groupes de passages, l'un dans lequel le serviteur, c'est la nation, l'autre dans lequel le serviteur attendu est le Messie d'Israël. Dieu s'est servi de ce peuple pour apporter aux hommes de toutes les nations les moyens de salut. Il y a une mission qui lui est encore réservée et qu'il remplira bientôt, car ce n'est pas fini, il n'a pas terminé sa mission sur le monde. Les alliances qui ont été conclues entre Dieu et lui par intermédiaire, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, les prophètes, le Sauveur, tout appartient d'abord à Israël. D'abord à Israël. En raison d'une élection de Dieu, en raison d'une décision souveraine de Dieu. Il y avait, concernant la terre d'Israël, des promesses, vous savez, qui avaient été faites à Abraham. Elles sont consignées dans la Genèse, il est facile de les retrouver. Des promesses, nous pouvons par exemple en lire une, chapitre 15, verset 18. « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Éthiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgassiens et des Jébusiens. Je donne ce pays à ta postérité. » Au chapitre 17, verset 7, « J'établirai mon alliance entre moi et toi. » C'est toujours à Abraham que ces choses sont dites, et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi, je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. En possession perpétuelle. Que fait aujourd'hui le concert des nations, la politique mondiale, de vouloir contester cette terre qui est appelée dans plusieurs passages le pays de l'Éternel, de vouloir le contester à un peuple alors que l'Éternel l'a donné à ce peuple? On apprendra bientôt ce qu'est un don de l'Éternel. On apprendra, les nations vont apprendre, et ce n'est pas, certes, le moindre des mécanismes qui vont faire venir le jugement sur ce monde. que cette contestation est hontée, cette contestation qui procède de l'incrédulité, de la révolte des hommes contre un petit peuple, contre un pays, alors que ce petit peuple est resté, et nous le verrons, resté le peuple de Dieu, alors que ce pays est resté le pays de l'Éternel. Oh, on a le sens de toutes sortes de justice dans le monde. On a toutes sortes d'autres principes à mettre en avant. Mais aucun d'eux ne peut surclasser celui de l'autorité souveraine de Dieu qui a disposé de ce pays en faveur du peuple d'Israël. Israël, peuple de Dieu. Moïse, s'adressant à Pharaon, lui dira, de la part de l'Éternel, avec la puissance prophétique, Israël est mon fils, mon premier-né. Chers amis, nos chefs d'État n'entendent plus de telles paroles. Elles sont loin, ces paroles. Ne sont-elles pas révoquées à cause de leur éloignement dans l'histoire? Oh, chers amis, je pourrais vous montrer bien des faits qui ont été éloignés pendant des siècles, des paroles qui ont été prononcées et qui semblaient avoir perdu toute puissance de réalisation. Et puis un beau jour, la parole s'est accomplie et le Seigneur Jésus a dit que tout ce qui avait été annoncé, tout ce qui avait été dit, tout ce qui était écrit s'accomplirait. C'est ça la foi d'abord. C'est ça la foi. C'est de croire, c'est d'attendre que la parole de Dieu s'accomplisse. Ce n'est pas d'être intéressé. Ce n'est pas un intérêt intellectuel, un intérêt évasif, un intérêt affectif. C'est de croire et d'attendre que l'accomplissement de Dieu se fasse. Entre Israël et Dieu, la Bible nous montre qu'il y a des relations qui ont été situées à moyen de comparaison, certes, mais de comparaison et qui ont une valeur particulière. Ce sont des relations d'un père avec son fils, ou encore, comme le dit le prophète Ésaïe dans son chapitre 54, des relations d'un époux avec son épouse. Car si le terme d'épouse a été donné aujourd'hui à l'Église, en tant qu'elle est la postérité d'Abraham, n'oublions pas que le peuple élu a porté et porte encore dans sa destinée prophétique lui aussi ce terme d'épouse. N'oubliez pas que cet enlèvement que nous attendons, nous chrétiens, avant les jugements, l'enlèvement de l'Église, certes, il se fera, il est annoncé, il est une chose certaine, mais cet enlèvement que nous appelons l'enlèvement de l'Église, c'est l'enlèvement de tous les ressuscités avec le petit contingent de l'Église de la dernière génération. Il ne sera pas gros dans l'ensemble. L'ensemble, c'est surtout les ressuscités. Et parmi les ressuscités, il y a tous ceux des dispensations anciennes. Ceux qui attendent, ceux qui ont vaincu, ceux qui par la foi, comme nous le dit tout le chapitre 11 des Hébreux, ont attesté, témoigné de leur foi dans les paroles de l'Éternel. Ils n'ont pas reçu ce qui leur était promis, car il faut qu'ils attendent, qu'ils nous attendent. Nous les faisons attendre, nous, l'Église, les dernières générations, nous les faisons attendre. Ils attendent, mais une chose leur est promise, elle leur sera donnée à l'enlèvement de l'Église, ils seront là. Les esprits parvenus à la perfection descendront avec le Seigneur Jésus, il ramènera les esprits au niveau de la terre. Car c'est là qu'il faut que la résurrection s'opère, non pas pour retrouver des restes humains dans le sein de la terre, mais parce que c'est là le théâtre où tout doit se dérouler depuis la création jusqu'à la reconstitution de la terre. Et Israël a supporté un châtiment terrible, châtiment, comme je l'ai rappelé, qui avait été annoncé dans le Deutéronome d'Avance. Le châtiment d'Israël que nous appelons maintenant, nous, la diaspora, la dispersion du peuple d'Israël à travers toutes les nations de la terre, la diaspora, car Israël fut souvent infidèle, contredisant, se tournant vers de faux dieux, se compromettant avec les nations païennes d'alentour. Dieu avait averti de façon réitérée, longtemps par les prophètes, et puis ce fut alors cette chose inouïe, cette chose que personne n'aurait voulu voir et reconnaître auparavant, le rejet du Messie par Israël, le rejet de son Messie. Chose effrayante, épouvantable. Un homme, un juif, un hébreu, comme l'apôtre Paul, en tressaillait. Le rejet, un reste, une fraction importante du peuple d'Israël, à qui appartient les alliances, la loi, le culte, les promesses, et de qui le Sauveur est sorti selon la chair, il est rejeté par ce peuple, le peuple de Dieu. Et pourtant, il avait dit, « Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Le rejet du Messie, c'est là ce qui détermine le Seigneur à laisser tomber sur le peuple tout le poids, tout le fardeau de ce châtiment dans sa totalité, tel qu'il avait été annoncé par Moïse. C'est la dispersion, c'est la diaspora. Rappelons-nous ce que disait le Seigneur Jésus-Christ, et vous savez, quand il a prononcé ces paroles, le Seigneur Jésus avait encore dans son cœur, peut-être dans ses yeux même, cette affliction qu'il avait manifestée devant Jérusalem quand il avait dit « Jérusalem, Jérusalem ». Toi à qui des prophètes ont été envoyés, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins, et vous ne l'avez pas voulu. Et Jésus avait pleuré sur Jérusalem. Pleuré. Tellement la chose était terrible, tragique. C'était là un effet de la chute qui touchait le Seigneur Jésus plus que toute autre chose. Et voici ce que disait le Seigneur Jésus dans son discours sur les choses de la fin. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. À son tour, Jésus prophétise, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ils seront emmenés captifs, pas libres, captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem, la ville que Dieu a choisie, nous sommes en train de voir aujourd'hui dans l'étude du prophète Zacharie, que Dieu choisit une fois, puis deux fois, puis trois fois même, Jérusalem, il choisit encore Jérusalem, il vient de choisir encore Jérusalem de notre temps. Il n'y a que quelques années qu'il a choisi encore Jérusalem. Mais, chers amis, le Seigneur avait annoncé cela à ceux qui allaient le rejeter. Le peuple juif était appelé à souffrir. Et je vous le disais tout à l'heure, il a souffert plus qu'aucun autre peuple. Mais le Seigneur avait annoncé aussi qu'il y aurait un rétablissement. Jamais il n'avait dit que la diaspora serait une chose qui se perdrait dans la suite des temps, et que le peuple lui-même dispersé serait noyé dans les autres races, dans les autres ethnies, et qu'on n'en parlerait plus. Non, pas du tout. Arriverait un moment où ce peuple serait repris parmi les nations. Et ce fut, vous le savez, en 1948, que ce retour et cette reconstitution de la nation juive subitement s'opéra après 1878 années d'éclipse. La nation juive réapparaît là, sur cette terre, donnée en donation perpétuelle aux descendants d'Abraham. Le 14 mai 1948, à 16h, un conseil israélien présidé par Ben Gurion proclame l'État d'Israël. Et, chers amis, c'était là, alors, le grand accomplissement d'une prophétie. L'avez-vous remarqué, cette prophétie, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 66? Nous pouvons lire verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné la naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de pareil? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? En plein travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu? Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Il s'agit de Jérusalem, il s'agit de son peuple. Et chers amis, voilà ce qu'écrivait, disons, 26 siècles avant nous, 26 siècles c'est quelque chose, ce qu'écrivait le prophète Ésaïe, un prophète d'Israël. Il annonçait que cette nation réapparaîtrait en un jour tout d'un coup, parce que Dieu la ferait naître. Alors chers amis, si en 1948, le 14 mai, Ben Gurion a prononcé cette fameuse allocution radiodiffusée qui a remué le monde. C'est parce que, d'un seul coup, Dieu enfantait à nouveau une nation. Une nation naissait, renaissait, après 1878 années d'éclipse. Les prophètes avaient annoncé cela d'autres qu'Ésaïe, car il faut bien dire que les prophètes sont abondants. Tous veulent participer, tous ont été poussés à participer à l'annonce de ce retour, de ce rétablissement du peuple d'Israël dans son pays. Et nous qui assistons à ces choses aujourd'hui, nous serions indifférents? Chers amis, moi je tressaille parce que la parole de Dieu s'accomplit, c'est tout, parce que sa volonté se fait, parce qu'elle est là, elle est manifeste. C'est pour cela, je ne cherche pas à juger, à savoir pourquoi, comment, Je ne cherche pas à comprendre peut-être bien des choses qui sont encore voilées, mais je dis c'est la volonté de Dieu. Et c'est une chose qui nous émeut jusqu'aux profondeurs de nos entrailles, quand la volonté de Dieu s'accomplit, cette volonté qui a été annoncée d'avance. Chers amis, comment ne pourrions-nous pas tressaillir en esprit? Le prophète Ézéchiel, j'ai eu l'occasion cet après-midi, au milieu de quelques amis, de parler des prophéties extraordinaire du prophète Ézéchiel touchant le rétablissement de la nation d'Israël, et puis ce coup extraordinaire que Gog va bientôt, cela n'est pas douteux, lui porter. Et comment cette nation va être sauvée par l'intervention immédiate, prompte et extraordinaire de l'Éternel. Et c'est là que l'Éternel, dans ce temps de la grâce, et nous voyons combien le temps de la grâce achemine lui-même vers sa conclusion, vers sa fin. Un Dieu qui n'agissait pas autrement que par la puissance de l'Évangile. Dieu qui voulait laisser toute liberté à la foi de s'exercer, il la laisse encore. Cependant là, il va être glorifié, sanctifié aux yeux de toutes les nations, car il va intervenir pour clouer sur place cette armée puissante qui déferlera du nord sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, dit le prophète. Mais maintenant, habité par un peuple retiré de toutes les nations où il avait été dispersé. Oh, je ne sais pas, il y a des gens qui vous diront que la Bible est chose confuse. Ce qui est confus, c'est leur cœur, ce n'est pas la Bible. Ce qui est dans la nuit, ce sont leurs pensées, mais ce n'est pas la Bible et qui est clarté pour qui a la foi et qui veut la comprendre. Et disons, mais pourquoi? Pourquoi Dieu fait-il ces choses? Pouvons-nous toujours avancer un pourquoi? Il faut être prudent, il faut que ce soit le pourquoi de la foi, certes, parce que le Seigneur aussi a des pourquoi à nous dire. Eh bien, nous pourrions là nous demander, puisque la Bible répond, pourquoi cette réintégration d'Israël? Très rapidement, je voudrais esquisser les différentes raisons qui, d'ailleurs, se tiennent comme une chaîne, comme les anneaux d'une chaîne. Je voudrais vous dire d'abord que la raison de Dieu, c'est d'abord la raison d'amour. La raison d'amour. N'avons peut-être pas, nous, maintenant, pour le peuple d'Israël, cet amour que Dieu a. La raison d'amour. Tu n'es pas un peuple considérable, tu n'es pas le plus grand des peuples, au contraire, tu es le moindre. Disait déjà l'Éternel dans le chapitre 7 du Deutéronome, tu es le moindre de tous les peuples. Et pourquoi alors l'Éternel s'intéresse-t-il à toi? Pourquoi te reprend-il? Parce que l'Éternel t'aime. Ah, chers amis, l'Éternel t'aime. C'est la raison majeure de l'Éternel. Et le prophète Ésaïe de dire, quand une femme abandonnerait l'enfant qu'elle allait, chose contre nature, quand même elle abandonnerait l'enfant qu'elle allait, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Ah, mes chers amis, bien sûr, vous direz, mais moi, chrétien, moi, je connais cet amour, moi, je suis celui qui est été relevé par cet amour m'entoure, cet amour, il est à moi. Oui, mais il n'est pas qu'à toi. Il est à tous ceux que Dieu a élus, que tous ceux que Dieu a vus d'avance. Il est aussi à ce peuple qui a été châtié pendant des siècles parce que l'Éternel t'aime. La deuxième raison, c'est la fidélité de Dieu que nous voyons exprimée dans le chapitre 49 d'Ésaïe, au verset 14 et 16. La troisième raison, si je peux leur donner un numérotage, c'est que après tout châtiment, Dieu accorde le pardon, car il a trouvé une rançon. après le châtiment, après l'épreuve, Dieu accorde le pardon. La quatrième raison, c'est que le royaume de Dieu doit être une réalité terrestre. Il faut que ce royaume apparaisse sur la terre même. Et le peuple d'Israël, malgré son opprobre, au sein de son humiliation, le peuple d'Israël est porteur du royaume de Dieu. Il lui manque la grâce. Mais quand la grâce viendra sur le royaume de David, et quand celui qui a introduit sur la terre la vérité et la grâce viendra lui-même, alors le royaume de Dieu sera là. Le royaume de Dieu sera là. La cinquième raison, c'est que la mission d'Israël doit reprendre. Comme le disent aussi les prophètes, c'est utile de lire les prophètes, la mission d'Israël doit reprendre. Et Jérémie, visant ce temps où après cette longue dispersion, cette longue diaspora, le peuple juif ne serait réintégré, que dit Jérémie? Alors il dit, l'arche sera remplacée par le trône. Le trône remplacera l'arche, le trône. L'Éternel sera là sur un trône à Jérusalem, là où était autrefois l'arche. Et enfin, sixième raison, la capitale de la terre sera Jérusalem. Il faut que la ville de Jérusalem, qui est le lieu choisi par l'Éternel, qui est le lieu où l'expiation des péchés du monde entier a été faite, qui est la source de la paix sur la terre, il faut que cette ville de Jérusalem devienne la capitale d'une terre rénovée, d'une terre resplendissante comme celle de la création. Et je pourrais ajouter, si vous voulez, un corollaire à toutes ces raisons que j'ai données, c'est que les peuples auront besoin d'Israël pour approcher le Seigneur. Les prophètes Ésaïe dans leur chapitre 45, Zacharie dans le chapitre 8, Sophonie chapitre 3, Ésaïe chapitre 2 et d'autres encore nous montrent cela. Les hommes s'accrocheront au basque d'un juif pour aller à Jérusalem, pour s'approcher du Seigneur. Dans la mission des juifs, il y aura cela. Ils aideront les hommes, ils permettront aux hommes d'aller vers le Seigneur. Quelle mission ! Cette mission les attend, chers amis. Tout cela est dans les prophètes, tout cela s'accomplira. Ce peuple qui est aujourd'hui honni, ce peuple qui a contre lui, disons, l'unanimité des nations, moins quoi ? Moins si peu de choses. L'amitié américaine même est quelque chose qui n'est peut-être pas tellement ferme aujourd'hui, mais toutes les nations de la terre sont contre lui, contre lui. Eh bien, toutes les nations de la terre, dès que l'Éternel, dès que Yahvé, dès que cet ange de l'Éternel que nous avons découvert dans le prophète Zacharie sera là, comme il l'a annoncé lui-même, il sera là à Jérusalem, au milieu de son peuple, alors les nations auront besoin du peuple juif. Car Jésus s'assiera sur le trône de David son père, il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin, dit l'évangile de Luc, dit cela. Alors, les peuples auront besoin d'Israël. Et je voudrais conclure maintenant. Est-ce normal que toutes les nations de la terre, dans notre actualité, dans ce temps égaré, nous ne sommes pas à un égarement près, tous les égarements sont là sur la terre, tous les aveuglements s'y trouvent. Mais est-ce normal que presque toutes les nations se tournent contre Israël? C'est contre Dieu, c'est contre ses desseins que l'on combat. Or, la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Tu les briseras avec une verge de fer comme le vase d'un potier, dit le psaume 2. Le psaume 2, relisez le psaume 2, et la coalition qui déjà est vue là, la coalition des nations contre loin de l'Éternel, contre le Fils de l'Éternel. Tu les briseras avec une verge de fer, ce sera le règne par la verge de fer, et le bonheur, car il y aura du bonheur pendant le règne de Christ. Christ vient régner avec la verge de fer, mais il établira la justice sur cette terre. Il établira la justice, et ce sera par conséquent le bonheur. Le bonheur, nous en connaissons la voie, c'est de se soumettre à Dieu. Le bonheur, c'est de se confier en lui. Aujourd'hui, c'est encore individuellement qu'il faut le faire. Se confier en Jésus-Christ, celui que nous avons appelé l'ange de l'Éternel avant son incarnation, celui qui est Yahvé, celui qui est le Fils. Le bonheur, c'est de se confier en lui, individuellement encore aujourd'hui, mais bientôt collectivement. Dans le règne, ce sera la confiance collective, et la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme, ou couvrira la terre, si vous voulez, comme les eaux de la mer couvrent le fond de la mer, nous dit un prophète. Israël, dans sa chute, a manifesté les incapacités de l'homme à accomplir sa loi. Ah, c'est cela. Et que c'est cette vue-là, c'est cette conclusion-là que nous pouvons retirer de la lecture de l'Ancien Testament. Israël n'a pas pu. Il n'a pas pu. Il a manifesté quelque chose, oui, en tant que serviteur de l'Éternel, pourtant placé sous la garde de la loi, il a manifesté les incapacités de la chair, les incapacités de l'homme à accomplir sa loi. Il est passé par la mort. Peuple tout entier, il est passé par la mort, non seulement par la mort du corps, mais relisez le Deutéronome, vous verrez que c'est une mort terrible, profonde. Mais il va revivre par l'Esprit de Dieu. Lisez le chapitre 37 d'Ézéchiel, ces ossements qui ont repris chair, et puis voici que une voix dit au prophète, souffle sur ces ossements c'est toute la maison d'Israël, souffle dessus, et voici que ces ossements reprennent vie, l'Esprit revient en eux. Tout cela s'est dit, et cela avant la guerre de Gog. Le peuple d'Israël a démontré la faillite de toute société humaine, et cela Dieu le voulait, et cela c'était aussi un service rendu à l'Éternel, la faillite de toute société humaine. Il faut perdre tout espoir en l'efficacité de l'effort humain, mais l'alliance ancienne a été remplacée maintenant par la nouvelle. Et dans la nouvelle alliance, ce n'est plus la loi qui est là, ce n'est plus la loi qui exerce son ministère, c'est un autre ministère que Paul appelle le ministère de la justice. L'autre, c'était le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, aujourd'hui le ministère de la justice qui est bien plus glorieux que l'autre, dit l'apôtre Paul, car ce ministère, c'est Christ en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Jérusalem.